De retour sur le plateau de BFM TV, quand, comment la riposte israélienne pourrait-elle intervenir dans les prochaines heures? Sous quelle forme? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une réponse à l'attaque de l'Iran menée ce week-end. Confirmation ce soir du chef d'état-major de l'armée israélienne.
Nous regardons vers l'avenir et nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire d'Israël sera accueilli par une riposte.
Igor Saïri, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. Le cabinet de guerre israélien s'est de nouveau réuni cet après-midi. Est-ce que des informations ont filtré sur le calendrier et sur le scénario qui est privilégié?
Non, il est très compliqué d'avoir des informations aussi précises sur cette fameuse riposte. On sait déjà que c'est désormais officiel. Israël veut provoquer des représailles contre l'Iran. Le Wall Street Journal cite des renseignements occidentaux et américains qui laisseraient entendre que cette riposte serait imminente, voire même aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne le calendrier. Quant à la riposte, il s'agirait peut-être de quelque chose qui ne dit pas encore son nom. Je vous explique. En réalité, cela fait trois fois que ce conseil de guerre se réunit autour de Benjamin Netanyahou, de l'état-major et des plus proches conseillers du Premier ministre israélien. Parce qu'il y a des divergences sur le tempo et sur l'intensité de ces représailles contre l'Iran. Il y aurait trois, quatre scénarios en réalité. Le premier serait le plus brutal, mais aussi le plus risqué pour Israël, car il pourrait coûter la vie à des civils et engendrer, une nouvelle riposte iranienne. C'est pas forcément le plus privilégié par les Occidentaux et par la communauté internationale qui préférerait que Israël admette que sa défense exceptionnelle, si j'ose dire, soit une réussite en soi. Car on le rappelle, selon Tzahal, 99% des projectiles iraniens dans la nuit de samedi à dimanche ont été interceptés par le système de défense israélien, par la coalition jordanienne, française, Grande-Bretagne et États-Unis. Et puis le dernier scénario, ce serait d'attaquer les alliés de l'Iran, ces relais comme le Hezbollah, comme des milices chiites syriennes ou encore comme les Houthis du Yémen.
Merci Igor Seyri et Clément Gredenier. Alors pour avoir plus de précision, peut-être faut-il aller voir du côté des États-Unis. Vous l'évoquiez Igor il y a un instant, le Wall Street Journal a publié un article en parlant d'une réponse Sonia Dridi qui pourrait être rapide, peut-être même là, dans les prochaines heures. Est-ce que vous avez plus d'informations?
Non, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Cet article du Wall Street Journal, en effet, cite des officiels américains qui parlent d'une réponse qui pourrait être rapide. Certains parlent éventuellement des prochaines heures, mais beaucoup ici à Washington pensent que cela pourrait prendre un peu plus de temps, notamment parce que le Premier ministre israélien a la pression de la Maison-Blanche pour ne pas contre-attaquer. C'est le message que fait passer l'administration Biden à Netanyahou, le Premier ministre israélien, depuis l'attaque de l'Iran sur Israël. D'ailleurs, il y a peu, il y a eu un point presse lors duquel un porte-parole de la Maison-Blanche a dit aux journalistes que la Maison-Blanche ne voulait pas de guerre avec l'Iran, que évidemment, les États-Unis faisaient c'était une priorité pour eux d'assurer la sécurité d'Israël. Mais clairement, la Maison-Blanche cherche la désescalade. Et d'ailleurs, on sait que dans son appel téléphonique avec le Premier ministre israélien, Joe Biden a demandé à Benjamin Netanyahou de ne pas répondre. Il a en tout cas dit que les États-Unis ne soutiendraient pas une contre-attaque d'Israël envers l'Iran. Joe Biden qui évidemment cherche la désescalade, il ne veut pas depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël, il craint un embrasement dans la région, il cherche la désescalade. Joe Biden notamment parce qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois. Et on sent vraiment qu'il est coincé actuellement entre les démocrates et les républicains. Les démocrates qui lui mettent la pression pour que justement, ils mettent davantage la pression sur Benjamin Netanyahou, notamment à la guerre par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et puis les républicains qui l'accusent d'être trop faible.
Merci Sonia Dridi. Bonjour lieutenant-colonel Vincent Arbera-Retier. Vous êtes historien militaire, docteur en sciences politiques et en histoire contemporaine. Et bonsoir Ulysse Gosset, éditorialiste politique internationale BFM TV. Lieutenant-colonel, les Américains jusqu'ici ont toujours été très bien renseignés. Et c'est vrai, quand il y a des informations qui viennent des États-Unis, on a tendance à les prendre très au sérieux. Quand le Wall Street Journal affirme que potentiellement cette attaque, elle pourrait intervenir là très rapidement, et on comprend dans les prochaines heures, peut-être même cette nuit, est-ce que vous pensez qu'effectivement cette riposte, elle pourrait être imminente ?
Alors, moi, je pense que contrairement à ce qui se passait pour les Iraniens, il y a une solidarité militaire entre les Américains et les Israéliens. Donc, si les Israéliens ne vont pas dire forcément à tout le monde ce qu'ils font, ce qu'on appelle dans les armées la sécurité des opérations, c'est-à-dire tenir secret ses préparatifs, tenir secret le déclenchement, à mon avis, cela fonctionne bien entre Israéliens et Américains. Quand les Américains avaient fait part des attaques iraniennes, c'est pas la même chose. L'Iran, c'était l'adversaire, si vous voulez. Donc, ils avaient intercepté des télécommunications entre les principaux responsables du gouvernement iranien, qui d'ailleurs n'étaient pas tous d'accord, semble-t-il, sur la nature, sur le temps, etc. Donc là, ils l'ont divulgué. Je pense que, de même que pour la guerre des six jours, lorsqu'Israël a frappé par surprise les aviations arabes le 5 juin, il est évident que les Américains le savaient, mais que les Américains n'auront rien dit. Donc je pense que ce que dit le Wall Street Journal, bon, ça peut être une indication, mais c'est pas nécessairement ce qui va
se passer.
C'est
pas à prendre au pied de la lettre.
Je pense que au niveau de la date, les Israéliens vont frapper avant Pessah, c'est-à-dire avant lundi prochain, parce que la fête de Pâques pour eux c'est sacré et ça va durer toute la semaine. Ouais. C'est soit avant, soit après Pessah. Ensuite, ça dépend les paramètres, si vous voulez. Ça va correspondre à leur logistique, parce que mine de rien, ils ont eu beaucoup de chasseurs qui ont été engagés lors des frappes iraniennes. Donc l'opération a été un succès pour eux et aussi un échec pour l'Iran. Il faut quand même le reconnaître. Donc stratégiquement, l'intérêt de Monsieur Netanyahou et de l'état-major israélien, c'est de frapper les Iraniens avant que ceux-ci aient eu le temps de faire des progrès technologiques qui leur permettent de véritablement menacer Israël. Parce que même si Israël a réussi à intercepter 99% des missiles ou des projectiles, disons, des Iraniens, c'est grâce aussi à la coordination des États-Unis. Parce que les États-Unis, mine de rien, ont coordonné dans l'espace aérien, comme ils savent le faire, une alliance avec plusieurs pays. Là, quand Israël va frapper, il frappera seul. Donc il frappera seul sur des objectifs dont il sera sûr. Il y a, comme vous l'avez souligné, une incertitude sur les pertes civiles, et ça, pour eux, c'est important. Israël a toujours cherché à minimiser les pertes civiles. Alors évidemment, les opérations à Gaza montrent que dans une ville avec une telle densité de population, sur des objectifs qui sont souvent mêlés à cette population, c'est très compliqué. En Iran, c'est pas tout à fait la même chose, le territoire est différent. Les bases iraniennes, notamment celles qui sont intéressantes, celles qui sont liées à tout ce qui est nucléaire, militaire, elles sont un peu à l'extérieur des villes.
Ouais.
Donc ce sont ce genre, à mon avis, c'est si l'aviation israélienne frappe, ce sera sur ce genre de cible.
C'est la ligne rouge, les civils, ne pas frapper la population civile.
Évidemment.
Quand les États-Unis disent hors de question de soutenir une opération militaire qui a une escalade, est-ce que la ligne rouge, elle se situe au niveau des civils ou elle se situe au niveau des installations du programme nucléaire iranien et du territoire iranien?
De M. Netanyahou, elle est limitée évidemment par les États-Unis, mais à mon avis, les États-Unis ne veulent pas que Israël frappe l'Iran. Ils voudraient, à mon avis, c'est l'option 2 que vous avez signalé, c'est que Israël frappe le Hezbollah, frappe
les relais, les proxys, les outils,
ce qui arrangerait d'ailleurs tout le monde, parce que s'ils anéantissaient la menace outil bon, dans un territoire quand même au Yémen. Hein. Donc là, ça pose aussi des problèmes.
Ulysse, si on est 48 heures après l'attaque, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réponse. Alors effectivement, il y a un flou au niveau du calendrier, mais est-ce que ça nous dit quelque chose du scénario qui est en train de se dessiner ?
Écoutez, ce que je remarque, c'est deux choses. La première, c'est que depuis l'attaque iranienne, il n'y a pas eu une seule déclaration d'un dirigeant iranien disant qu'il ne fallait pas riposter. Et par contre, on a eu le chef d'état-major et surtout le ministre de la Défense qui a dit ce soir, Israël n'a pas d'autre choix que de riposter. Donc vraiment, la question, c'est quand et comment ? Et actuellement, personne ne peut vraiment donner la réponse. La deuxième chose, c'est que les Américains n'ont cessé de répéter qu'il fallait éviter une désescalade, comme d'ailleurs les Britanniques, les Français, le président Macron l'a encore ce matin.
Une escalade.
Tout le monde est sur le thème de la désescalade. Mais surtout, Biden s'est engagé. Il a fait savoir qu'il avait parlé avec Netanyahou.
Il a appelé directement Netanyahou.
Voilà, et en lui disant, tu as une victoire, sache en profiter et c'est pas le moment de remettre une pièce dans la machine.
Oui, mais
attendez. Et donc Biden met sa crédibilité sur la table en disant à Netanyahou ne le fais pas. Si les Israéliens interviennent dans la nuit ou dans les jours qui viennent, ça veut dire que l'autorité de Biden est remise en question par Israël, je dirais presque une fois de plus, puisque depuis que la guerre de Gaza a commencé, depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas, eh bien les Israéliens ont fait quasiment ce qu'ils ont voulu. La seule chose, pour compléter ce que disait le général avec beaucoup de... le colonel, pardon, bientôt général, ce qui est extrêmement important, ouais, c'est que pour lancer une attaque d'envergure contre l'Iran, Israël a besoin du soutien des Américains.
Et ne peut pas se passer de l'aval des Américains.
Or, les Américains ont dit, nous ne participerons pas à une telle attaque. Donc, vous voyez, on est dans une situation quand même très complexe et il y a beaucoup à perdre pour Biden, pour son autorité, hein, en tant que leader, commandant en chef de l'Amérique et des Occidentaux, si j'ose dire. Et puis, pour Netanyahou, dont les rapports sont déjà extrêmement difficiles avec les États-Unis.
Est-ce qu'il y a une riposte qui serait acceptable, Fred Hermel?
Ah, mais elle est obligatoire.
Mais est-ce qu'il y en a une qui serait acceptable par tout le monde?
Oui.
Par la population israélienne, par le gouvernement israélien, par la communauté internationale.
Il y a de nouveau une union nationale. Même les Israéliens de gauche, c'est-à-dire ceux qui sont pro-paix, les Israéliens de gauche savent qu'il faut réagir parce que c'est quand même un événement majeur qui s'est passé. C'est la première fois.
Enfin, il y a quand même des dissensions au sein du gouvernement sur la riposte à apporter.
Oui, sur le degré de la riposte. Sur le degré de la riposte elle-même. D'un point de vue existentiel, parce qu'Israël est obsédé par son existence, et c'est bien compréhensible, est obligé de réagir. Et la réponse, elle doit venir rapidement. Vous avez évoqué, monsieur, tout à l'heure, Pessah, la fête qui commémore la fuite des Hébreux d'Égypte, qui est une fête majeure en Israël. Mais aussi, l'Israël doit profiter, en gros, de l'amitié qu'il reçoit depuis quelques heures de part de la communauté internationale. C'est-à-dire que dans une semaine, l'émotion sera retombée après cette attaque.
Non, on peut dire exactement le contraire. On peut dire que, profitant justement de cette solidarité occidentale à l'égard d'Israël, qui était plutôt isolée en raison de Gaza,
ils peuvent attaquer.
En attaquant l'Iran, ils vont mettre en péril et fragiliser ce nouveau climat favorable à Israël.
Ils peuvent profiter justement. Ils ont besoin de répondre rapidement, parce que rapidement, ça va disparaître.